VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes vendredi 8 décembre 2017 au sommaire. Grosse perte dans les rangs des casques bleus en RDC. 14 soldats onusiens ont été tués dans le Nord Kivu. Nouvelle violence dans le Cameroun anglophone alors que le Nigeria voisin dément tout soutien aux séparatistes. Au Soudan du Sud, plus de 60 morts dans des combats entre clans rivaux. Et plus des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs pays musulmans contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au moins 14 casques bleus de la MONUSCO, la force onusienne en République démocratique du Congo, ont été tués, plus de 40 autres blessés dans une attaque dans l'est de la RDC. 5 soldats congolais ont aussi perdu la vie. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, se dit choqué par l'attaque odieuse. Il annonce l'envoi de renforts sur place et des évacuations médicales. Il s'agirait d'une attaque des rebelles ougandais de l'ADF contre une base de la MONUSCO. On écoute l'ambassadeur de la France aux Nations Unies, François Delattre.
Dans ce contexte, nous souhaitons réitérer notre plein soutien, bien sûr, à la MONUSCO, exprimer notre profonde sympathie et toutes nos condoléances aux très nombreuses victimes de cette tragédie, exprimer nos pensées à l'égard de leurs proches et réaffirmer plus que jamais notre engagement en soutien à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre en RDC et notre plein et entier soutien à la MONUSCO et à toutes celles et tous ceux qui, dans des conditions difficiles, travaillent en son sein au service de la paix en République démocratique du Congo. La France est donc plus que jamais engagée à leur côté dans ces heures de tristesse.
François Delattre, ambassadeur de la France à l'ONU. L'ONU qui tient une réunion d'urgence sur cette question. L'armée camerounaise a été victime d'une autre attaque meurtrière en zone anglophone. La nuit dernière, la compagnie de gendarmerie de Mamfé, à 371 km de Yaoundé, a été prise pour cible. Le bilan fait état d'un gendarme tué et d'une dizaine d'assaillants tués également. Les précisions depuis Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jultap.
Les assaillants, affirment les sources de sécurité sous couvert d'anonymat, sont arrivés à Mamfé à bord d'une embarcation motorisée. Ils ont pris pour cible la compagnie de gendarmerie de la ville dans l'optique d'en prendre possession. L'affrontement entre gendarmes et assaillants a été violent et les combats ont duré jusqu'au matin. En témoignent les photos montrant les impacts des balles sur les portes vitrées de la compagnie de gendarmerie de Mamfé, dont VOA Afrique a obtenu copie. Sur ces clichés, on peut voir les corps d'une dizaine de jeunes gens. Un élève gendarme camerounais est tombé sous les balles et 5 soldats blessés lors de l'affrontement. Les assauts contre l'armée camerounaise se multiplient depuis novembre dernier dans les localités du département de la Manyou, voisine au Nigeria. Hier, un émissaire du président de la République fédérale du Nigeria, reçu en audience à Yaoundé par Paul Biya, a déclaré que le Nigeria ne soutenait pas des sécessionnistes anglophones. Yaoundé, Emmanuel Julta, VOA Afrique.
La nouvelle session du dialogue burundais de sortie de crise ouverte le 28 novembre à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, s'est clôturée ce vendredi sans aucun accord et également dans la cacophonie. Le médiateur dans cette crise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, avait reconnu dans un message hier que l'objectif principal de la session, à savoir les interactions directes entre les participants, n'avait pas été réalisé. La rencontre se tenait sans l'opposition en exil. La justice sénégalaise a ordonné le renvoi devant un tribunal correctionnel du maire de Dakar, Khalifa Sall, et 4 de ses collaborateurs pour détournement de fonds publics. Il appartient à présent au procureur de fixer la date du procès. Khalifa Sall devra répondre de dépenses non justifiées de plus de 2 700 000 euros prélevés sur plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de la mairie de Dakar. Arrêté depuis le mois de mars, le potentiel adversaire de Macky Sall à la présidentielle de 2019 nie ces accusations. Depuis mercredi, plus de 60 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans des combats entre clans rivaux dans le centre du Soudan du Sud et Kabadou.
Les combats ont commencé le 6 décembre à plus de 250 kilomètres au nord-ouest de la capitale Juba. Deux clans rivaux de l'ethnie Dinka, les Roup et les Pakam, se sont affrontés pour le partage du bétail. Un nouveau raid a eu lieu à l'aube. Le gouvernement a appelé les communautés de l'État des Western Lakes à cesser de se battre. Le porte-parole du président, Salva Kiir, Atenyiwek Ateny, a indiqué qu'un conseil de sécurité a été convoqué pour évaluer la situation. Dans une lettre signée par Akolpol Kordi, vice-ministre de l'Information, le déploiement de l'armée pour faire cesser les combats est demandé au président. Les communautés pastorales au Soudan du Sud mènent régulièrement des attaques pour voler du bétail et se livrer au pillage, ce qui attise le cycle de représailles. Ces affrontements accentuent le climat d'insécurité dans un pays en proie à une guerre civile depuis décembre 2013. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés.
Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a relancé la polémique sur le viol dont a été accusé le président Jacob Zuma il y a 11 ans. M. Ramaphosa a affirmé qu'il croyait en la sincérité de la victime présumée. Jacob Zuma avait été acquitté dans cette affaire. Les déclarations de M. Ramaphosa interviennent à une semaine de la conférence au cours de laquelle le Congrès national africain doit élire à sa tête le successeur de Jacob Zuma.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des heurts ont éclaté aujourd'hui à Jérusalem et en Cisjordanie entre forces israéliennes et palestiniennes qui étaient appelées à un jour de rage pour dénoncer la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Jacques Aristide.
De violentes empoignades ont mis aux prises manifestants palestiniens et policiers israéliens dans et autour de la vieille ville. À Hébron, Bethléem, Jéricho et près de Naplouse, en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont répliqué par des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène aux jets de pierres de jeunes palestiniens. Le Croissant Rouge a indiqué avoir traité un certain nombre de personnes blessées par des projectiles en caoutchouc et pour l'une d'elles, à balles réelles. Plusieurs Palestiniens ont par ailleurs été blessés par des tiers israéliens dans la bande de Gaza. Le groupe islamiste Hamas a appelé à une nouvelle intifada. Cette journée de grande prière hebdomadaire pour les musulmans, annoncée comme celle de la mobilisation, a également vu des fidèles protester en Iran, en Malaisie, en Égypte ou en Turquie, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Istanbul et Ankara. Un rendez-vous diplomatique important est attendu à New York, avec une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, où Washington risque d'être confronté à la réprobation du reste de la communauté internationale. La Ligue arabe aussi se réunit demain, samedi, pour apporter une réponse à la décision du président Trump.
Le président russe Vladimir Poutine doit effectuer lundi une visite à Ankara pour des entretiens avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan axés sur Jérusalem et la Syrie. Cette visite interviendra alors que l'armée russe a affirmé hier que le territoire syrien avait été totalement libéré du groupe État islamique. Elle intervient également dans un contexte de vives tensions dans la région après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson invite l'Arabie Saoudite à faire preuve de plus de mesures au Moyen-Orient, notamment face au Qatar et au Yémen. S'agissant de l'engagement de l'Arabie Saoudite face au Qatar, de la guerre au Yémen et de la situation au Liban, nous les appelons à plus de retenue. Le patronat britannique s'est montré rassuré par l'accord de principe conclu entre Bruxelles et Londres sur les conditions du Brexit. La deuxième phase, celle des discussions commerciales, promet d'être longue et complexe. Anastasie Toudiech.
Londres et Bruxelles ont annoncé la conclusion d'un accord de principe sur les trois dossiers prioritaires de leur séparation, sans toutefois donner de chiffres. Un porte-parole de Downing Street précise que le montant de la facture est estimé à entre 40 et 45 milliards d'euros. D'après Catherine McGuinness, responsable de la City of London Corporation, le plus dur commence. les responsables britanniques et européens vont devoir plancher sur un accord commercial spécifique. Le négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, a évoqué un traité modelé sur le récent accord avec le Canada. Les négociations pourraient prendre des années. Les milieux d'affaires réclament, en attendant, la promesse d'une période de transition entre le divorce et la mise en place des nouvelles conditions commerciales. Enfin, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France a assuré être pleinement mobilisée pour que la région parisienne tire profit du Brexit.
Et puis l'économie des États-Unis a affiché de solides créations d'emplois en novembre, dépassant les attentes des analystes, tandis que le taux de chômage est resté stable à son plus bas niveau en 17 ans. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakiza qui nous présente l'actualité économique.
La Côte d'Ivoire bénéficie d'un crédit de 125 millions de dollars pour soutenir ses efforts pour une croissance durable et renforcer la résilience de l'économie au choc. Ce prêt émane de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement. En mars 2017, la Côte d'Ivoire a aussi bénéficié de 325 millions de dollars pour le projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité. Au Burkina Faso, la Banque Atlantique soutient la mairie de Gaoua pour offrir un meilleur cadre de vie aux populations locales. Cet accompagnement porte sur un don de matériel de ramassage, de stockage et de transport d'ordures. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'actions d'assainissement de la ville de Gaoua. Le Maroc mobilise 20 millions d'euros pour préserver les ressources en eau. Le groupe BMCE, Bank of Africa, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement ont réuni ce montant. Enfin, aux États-Unis, l'économie a enregistré de solides créations d'emplois en novembre. Les nouvelles embauches ont totalisé 228 000 au-dessus des 190 000 escomptés. C'est notamment dans les secteurs des services aux entreprises, du bâtiment et le secteur manufacturier. Le nombre de chômeurs est resté stable. La réserve fédérale Fed doit relever les taux d'intérêt la semaine prochaine.
La page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
C'est la veille d'armes pour le représentant africain à la Coupe du Monde des clubs.
Et oui, sacré champion d'Afrique le mois dernier, le Wydad Athletic Club de Casablanca est aux Émirats Arabes Unis pour la première fois de son histoire. Les Rouges qui participent à la Coupe du Monde des clubs. Le WAC entrera directement au stade des quarts de finale. Ce sera demain face au club mexicain de Pachuca. Une victoire leur permettrait d'atteindre les demi-finales de la compétition pour jouer contre les Brésiliens de Grêmio. Avant, pourquoi pas, d'atteindre la finale et d'affronter le Real Madrid de Ronaldo, grand favori du tournoi.
On jouait aussi la Ligue Europa hier soir.
Et le Milan AC qui a concédé sa première défaite de la saison en Ligue Europa à Rijeka, 2-0. Le Milan AC qui était assuré de terminer à la première place du groupe D. En déplacement à Vienne pour y défier l'Austria, l'AEK Athènes est resté muet mais a décroché un match nul 0-0, synonyme de qualification. Villarreal n'avait rien à craindre avant la réception du Maccabi Tel Aviv. Défaite 1-0, c'est également la première défaite de la saison en Ligue Europa pour les Espagnols. Arsenal s'est baladé, victoire 6-0 face au Baté Borisov. Par ailleurs, Bilbao a assuré sa qualification chez les Ukrainiens du Zorya Lugansk, 2-0.
Coupe Sekafa au Kenya.
L'Ouganda a chicoté le Soudan du Sud 5-1. Pas de match en revanche entre le Zimbabwe et le Burundi en raison, vous le savez, du forfait des Zimbabwéens.
Et puis la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Rockets de Houston continuent de survoler la conférence Ouest. Ils ont décroché hier leur 8e victoire consécutive en écœurant Utah. Le score 112-101 grâce encore une fois à James Harden. À Philadelphie, le duel très spectaculaire a tourné à l'avantage des Lakers qui l'emportent 107-104. Enfin, le Thunder d'Oklahoma City s'est incliné à Mexico lors d'un match exceptionnellement délocalisé face à Brooklyn 95-100.
Merci Nicolas.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Quelques 800 femmes et jeunes filles des écoles secondaires de Gao, dans le nord du Mali, sont sorties ce vendredi matin pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Cette marche a fini par une déclaration lue et remise au chef de l'exécutif régional de Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
La marche des femmes et des filles a pris corps devant l'hôpital régional à Hangadoumbou Touréi. Pourquoi donc une telle mobilisation des femmes et jeunes filles de Gao? Madame Touré Koumba Hashimi, leader de femmes.
Vous savez que sur nos routes, de Bamako à Gao, nos filles et nos femmes sont violées. Vous savez qu'au niveau des écoles, les filles sont violées. Ça doit cesser. On doit prendre des mesures urgentes et tout de suite pour que nous puissions faire taire ce qui est en train de se passer actuellement.
Les femmes et les jeunes filles ont marché sur 1 kilomètre avant d'arriver au gouvernorat. Là, c'est Aissata Al-Mahdi, la présidente du Parlement des enfants, qui a lu la déclaration des femmes et filles dans une émotion très forte.
Les femmes et les filles de la région de Gao ont le cœur meurtri face aux actes de viol perpétrés sur elles lors des voyages suite au barquage des bus de transport en commun entre Gao Sévaré, Gao Niamey et à l'intérieur des agglomérations de la région. Nous venons par cette occasion vous exhorter à plus d'attention particulière sur ces cas de viol qui n'honorent personne dans la cité. Nous vous prions de tout cœur à vouloir tout mettre en œuvre pour faire cesser ces actes ignobles et à punir les auteurs de ces crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Une attention toute particulière doit être portée sur les cas des filles migrantes et des femmes en déplacement.
Le gouverneur de la région qui a reçu les femmes les a rassurés que toutes les dispositions sont en train d'être prises. Sidiki Samake, gouverneur de la région de Gao.
Le message a été entendu et nous allons mettre tout en œuvre pour que ces violences faites aux femmes, surtout sur la route, que ces violences cessent et cessent immédiatement. Je peux vous assurer que dans les jours à venir, vous verrez les résultats.
Il faut rappeler que cette marche des 800 femmes et jeunes filles, selon les organisatrices, entre dans le cadre des 16 jours d'activisme par rapport aux violences faites aux femmes et aux filles dans la région de Gao. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Le parti présidentiel gabonais, le PDG, a ouvert ce vendredi son congrès ordinaire sous le thème de la régénération. Le PDG traverse des dissensions internes et tente de se remettre en selle plus d'un an après l'élection présidentielle mouvementée d'août 2016. Les travaux du 11e congrès ordinaire vont se dérouler en 3 jours et devront aboutir à l'élection du nouveau secrétaire général du parti. Yakuba Ouedraogo a joint le professeur Auguste Eyene Essono, analyste politique.
Je dois vous avouer que cette actualité ne suscite pas un grand engouement.
Pourquoi ?
Un congrès organisé par un parti qui est au gouvernement depuis 50 ans ne peut pas susciter un intérêt majeur.
Professeur, vous le disiez tantôt, est-ce qu'on peut dire que cette formation politique du PDG est essoufflée après 50 ans de gestion du pouvoir ?
Je pense qu'il est contradictoire de vouloir régénérer un parti alors que ce parti est sous à gouverner un pays qui a vu ou qui dispose d'autant de ressources. Générer pour quel objectif ? C'est ça la question principale.
Professeur, on a envie de vous retourner la question.
Lorsque des gens ne sont pas éduqués à la fois à la question de la démocratie et à la question de la sauvegarde de l'intérêt général dans un pays, un terme tel que régénérer ne peut pas avoir une grande importance. Si l'on veut régénérer les ressources d'un parti juste pour aller à la sauvegarde des intérêts particuliers des gens qui dirigent ce parti ou des militants de ce parti, je pense à ce moment-là que régénérer un parti veut dire assembler, renouveler les ressources d'un parti en tant que ce parti est utile pour l'avenir d'un pays. Alors, on régénère le PDG pour quel objectif ? juste pour que ce parti continue à alimenter le mal à la racine, le mal qui détruit le patrimoine et les ressources de notre pays.
Professeur, il y a des élections législatives en vue en avril 2018.
Oui, mais attendez, en vue de se ressourcer dans le but de gagner une élection, il faut déjà que dans ce pays, on accepte de respecter les règles. Un parti dont le projet est de s'aborder tout ce qui peut faire que dans une société, les gens vivent ensemble. En quoi ce parti peut se targuer de dire qu'il se régénère en vue d'aller gagner une élection? Gagner quelle élection? On gagne une élection lorsqu'on sait respecter les règles.
Des membres historiques du PDG, comme l'ancien secrétaire général Faustin Boukoumbi, entre autres, ont quitté le parti. Peut-on parler de dissension interne?
C'est pire qu'un dysfonctionnement interne. En fait, le PDG est aujourd'hui un mirage. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le PDG n'existe plus en dehors du folklore. Des individus, non pas acquis à la cause du PDG, mais des individus qui n'ont à cœur que de se battre pour des intérêts, pour de vils intérêts particuliers. De véritables problèmes qui engagent l'avenir d'une nation ne sont pas posés.
Cela pourrait profiter à l'opposition.
La seule chose qui puisse profiter à l'opposition est que l'on s'accorde définitivement dans ce pays que la règle du vote existe. Il faut être capable de s'incliner face au verdict des urnes d'une part et d'autre part accepter le principe de l'alternance dans ce pays.
C'était l'analyste politique gabonais, professeur Auguste Eyene Essono.
Retrouvez tous les jours sur Radio Génération Nouvelle l'équipe VOA Afrique et vos programmes favoris. Le monde d'aujourd'hui, à votre avis, RM Show et votre leçon d'anglais sur 97.4 FM à Libreville. Radio Génération Nouvelle, station partenaire de VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la Haute Cour de Pretoria a annulé la nomination d'un nouveau procureur général proposé par Jacob Zuma. Shaun Abrahams est considéré comme un proche du président sud-africain. Ce tribunal a aussi interdit au chef de l'État de nommer son successeur en raison d'un conflit d'intérêts. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Johannesburg le professeur à l'Institut de droit international et comparé André Thomashausen.
C'est un peu extraordinaire. Cette affaire, déjà dans le temps, en 2015, a été mise en litige par certaines NGO intéressées dans l'affaire et par le parti de l'opposition, le Parti démocrate. Maintenant, finalement, après 2 ans, nous avons un jugement. Zuma a perdu un procureur général qui est sympathique pour lui et il risque très fortement que les prosecutions avec à peu près 700 charges de fraude et de vol sera réinstituées contre lui. C'est un cas un peu sérieux, sauf que évidemment Zuma va faire un appel. L'appel à la Cour suprême, et après une décision de la Cour suprême, il pourra encore faire l'appel constitutionnel à la Cour constitutionnelle, et tout ça fera gagner assez de temps pour peut-être régler son futur hors du gouvernement.
C'est donc une procédure normale, mais c'est quand même inédit de refuser une nomination d'un président de la République, c'est son droit constitutionnel.
Les critiques du gouvernement, ils se réjouissent, il y a toute une euphorie dans la presse, mais l'activisme des juges en Afrique du Sud devient de plus en plus agressif. Il y a quelques mois que la même cour régionale de Gauteng avait prononcé un jugement qui mettait en cause la nomination d'un nouveau ministre des Finances, encore une fois un privilège normal du chef de l'exécutif de n'importe quel pays de choisir et de nominer des ministres. La cour constitutionnelle aura des difficultés d'être d'accord avec cette cour régionale parce qu'évidemment la séparation des pouvoirs dans un État est fondamentale et les juges ne peuvent pas commencer à définir de décisions qu'un gouvernement peut prendre et ne peut pas prendre.
Dans une semaine, l'ANC désigne le successeur de Jacob Zuma et cette haute cour de Pretoria a ordonné à Cyril Ramaphosa de procéder à la nomination d'un nouveau procureur dans les 60 jours. Est-ce que ça renforce les pouvoirs de Ramaphosa et de le voir remporter la bataille contre Dlamini Zuma?
c'est un litige dangereux et conflictueux, mais le président Zuma, c'est-à-dire les avocats qui vont le représenter, peuvent, dans leur appel, s'ils le font très vite, ils peuvent demander à la Cour suprême de suspendre l'effet exécutif de cette décision qui a été prise aujourd'hui. Je suis sûr que c'est ce qu'ils feront, et ainsi on ne verra pas si prochainement la nomination d'un nouveau procureur général, et la vie continuera pour encore bien des mois, plutôt normal. La conférence de l'ANC va faire son choix. Les délégués, jusqu'à présent, ont donné une majorité entre les 12 à 15% des votes de nomination au vice-président Cyril Ramaphosa, mais le vote pendant le Congrès sera un vote secret, alors il pourra y avoir encore des surprises.
C'était le professeur André Thomas de l'Institut de droit international et comparé. En ce vendredi, jour de la grande prière chez les musulmans, il y a eu beaucoup de manifestations dans plusieurs pays contre la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Que représente Jérusalem au sein de l'islam? Idriss Fall a joint Martar Kanté de la mosquée du Point E à Dakar.
Jérusalem, le Coran ne cite jamais le terme de Jérusalem en tant que tel, mais cite le Masjid al-Aqsa, la mosquée lointaine, en termes de lieu de prière. Il y a maintenant des propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui expliquent que c'est un lieu où le prophète Jacob avait construit une mosquée. Et le Coran cite clairement ce qu'on appelle le voyage nocturne du prophète, donc ce voyage miraculeux qui s'est fait de la Mecque vers le Masjid al-Aqsa, donc ce lieu de prière à Jérusalem, et de Jérusalem au ciel. Donc ça montre encore l'importance symbolique. Aussi, le prophète a indiqué que le lieu de Jérusalem, c'est un lieu où la prière vaut 250 fois la prière faite dans les mosquées ordinaires.
Historiquement, même avant de se tourner vers la Kaaba pour leur prière, les premiers musulmans se tournaient vers Al-Quds.
Mais parfaitement, ça a montré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était venu comme le couronnement de l'islam, c'est-à-dire l'islam depuis Abraham. C'était la continuité. Effectivement, la première Qibla a été vers Masjid al-Aqsa, donc vers Jérusalem. C'est quand les Juifs ont refusé le message du prophète que le prophète a reçu l'ordre divin de changer de direction. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, si vous allez à Médine, on vous montrera la mosquée où il y a ces deux direction encastrée dans la même mosquée. C'était le moment de la rupture théologique entre l'islam incarné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le refus des fils d'Israël de considérer Mohammed comme la continuité du message d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Ismaël.
Près de 2000 ans après, le président Trump décide de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Vous, en tant que musulman, vos réactions?
Moi, je considère simplement que c'est une décision qui est catastrophique. Il faut maintenant comprendre les motivations de Trump. Sur le plan politique, il aura beaucoup de problèmes avec les pays arabo-musulmans. Qu'est-ce qu'il a gagné en prenant cette décision? D'abord, pour essayer d'externaliser les problèmes internes très sérieux qu'il a actuellement aux États-Unis avec le problème de l'implication de son entourage dans les magouilles, les trucs avec les Russes, etc., etc. Et aussi, je pense que c'est très important, la dimension purement religieuse. C'est-à-dire qu'il est sous influence des évangélistes messianistes qui sont dans son entourage très proche, comme son gendre qui est juif orthodoxe et qui a converti sa fille, le second numéro 2 ou numéro 3, je crois, qui aussi est très proche des milieux évangélistes qui ont beaucoup soutenu Trump. Donc la rançon de ce soutien, c'est qu'aujourd'hui, qu'il donne le gage qu'il sera loyal. C'est un exutoire pour détourner les gens. Mais ça va être très compliqué après.
C'était l'imam sénégalais Martar Kanté, joint à Dakar.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph. À la console, Nelson Lopez. Présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.